Préparez-vous à vivre un moment inoubliable. Du 1er septembre au 31 décembre, découvrez le spectacle Entre chiens et louves au Bon Marché Rive Gauche. Une création inédite par Cirque Leroux qui mêle cinéma, danse, théâtre et art du cirque. À la nuit tombée, au cœur du magasin, 8 virtuoses défient les lois de la gravité pour une épopée de haut vol. Réservez vos places dès maintenant sur lebonmarché.com.
À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Daniel et Léo. Enfant d'Ovalie, incontestablement citoyen du monde, probablement.
Troisième épisode, tu es rugby, toi. Bonsoir, Daniel Herrero.
À midi soir, bonsoir.
Après nous avoir raconté, pour employer les mots de Jean Lacouture, que le rugby est un sport qui respecte un certain nombre de valeurs et de règles, peut-être même plus, en tout cas ce qui fait sa supériorité par rapport au foot, pour reprendre donc les mots de Jean Lacouture, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen, contrairement à un certain autre. Après nous avoir raconté, comme le faisait Michel Serres, que le rugby, c'est un processus d'humanisation et un lien social dont le ballon est le vecteur, j'aimerais qu'on en vienne à votre pratique. La pratique du jeu, d'abord, qui a été la vôtre depuis tout petit. Alors on va commencer par tout petit. Si je vous crie aux jambes, c'est peut-être encore plus fort, hein. Ça vous évoque quoi ?
Ah, ça m'évoque le signal de l'univers ovale.
Ouais, rien que ça.
Ouais. Aux jambes, tu vois.
Ouais, c'était encore plus fort.
Alors, c'est pas un impératif. C'est un conseil. C'est un conseil de sage, de fait.
La première fois qu'on vous l'a dit.
C'était... Ouais, la première fois qu'on me l'a dit, on me dépose un jour devant le parvis du temple ovale, tu vois, le parvis des rugbyman au stade. Et j'ai 10 ans, on me met là. Puis, je m'entraîne. Déjà, j'entends l'éducateur comme si les premiers, et toutes aux premières interpellations, tu vois, qui sont à la fois un conseil, une ligne directrice, tu vois, pousse bien la balle, pousse avec tes bras, offre avec tes mains, tu vois, quand tu fais une passe, en mêlée, pousse bien dans l'axe, ce genre de trucs. Mais quand même, le premier truc qui vient très très vite, c'est « aux jambes !» Grosso modo, quand tu n'as pas la balle, c'est que, à l'entraînement, c'est fréquent. En match, n'en parlons guère, tu vois. Quand tu n'as pas la balle, il faut que tu ailles la récupérer. Il faut attraper.
De l'adversaire.
Et quand même, avec le mot aux jambes, on ouvre le monde du rugby, quoi. Là, tu arrives dans un endroit où il va falloir taper des mecs, rentrer dans le corps des mecs, et il va falloir que tu les arrêtes. Mais c'est compliqué, quelqu'un qui court, quelqu'un qui porte une balle et qui se déplace et qui va vite. Et les jambes, ça tourne. Tu vois, c'est.
Donc, mais faut les... oser y aller, ouais, ouais, attraper les jambes.
Et l'idée, c'est, avec, l'impulsion aux jambes, c'est appel à ton courage, et en même temps, il te donne le petit temps. C'est là où tu as le plus de chances de le faire tomber, grosso modo.
Vous l'avez fait,
ah oui,
ce
oui,
jour-là
oui, oui.
Vous ah avez oui, réussi
oui, je sais pas. Je crois que je comprends que ça y fera plaisir, le mec, si j'y vais, moi. Tu vois, c'est, il me semble que...
c'est, le mec, c'est votre frère et votre
non,
frère
non,
qui vous regarde
ouais, c'est,
ou le mec,
mon
c'est
père,
le...
quand même, mon père. Mon père, mon frère aîné, pas trop, mais mon père, quand même, qui me mène au stade, et il vient voir le premier match quand je suis Benjamin, et qui me dit, Daniel, aux jambes, tu vois, qui doit voir que, quand même, que je cours un peu n'importe où, tu vois, et que quand l'adversaire, j'y saute dessus, moi, peut-être, tu vois, j'y tire pas les cheveux, parce que je sais, j'ai bien compris que ça se faisait pas, mais peut-être j'y saute sur les épaules, ou... Non, aux jambes. Il y a... Bienvenue dans l'univers des rugbyman. Tu sembles être potentiellement Daniel un rugbyman, mais c'est aux jambes que ça se passe. En d'autres termes, tu dois comprendre que c'est dans le segment moteur qu'il va falloir que tu interviennes. Il faut que tu l'entraves, tu vois. Voilà. Et ça, malgré tout, il y a la domination de la première peur, de fait. Si tu y vas là, après, il y aura la percussion, il y aura le grand temps, autre chose. Mais si tu y vas là, là, on est dans le duel, de fait. Là, on est dans ta confiance, mec. Là, on t'invite à toi-même, quoi. Aux jambes, c'est viens avec ton cœur dans l'univers des rugbyman. Quoi.
C'est peut-être pour ça que peu de temps après, on vous a dit tu es rugby, toi. Ah ouais. Je veux dire vraiment, tu le portes en toi.
Ouais.
Vous aviez à peu près à peine 11 ans.
À peine, ouais.
Commenciez
ouais.
Le rugby.
Ouais.
Et alors avant, Daniel Herrero, vous jouiez au foot. Et encore avant, vous aviez une balle. Alors, tout a commencé par une balle. Mais elle était ronde, cette balle.
Je sais même pas. Je crois que oui. Ouais. Je crois. Bah, ovale, mais personne ne joue avec une balle ovale.
Bah non, mais c'est ça.
Pas rugbyman.
Mais d'ailleurs, on l'a pas dit ça dans la deuxième émission. Pourquoi la balle est-elle devenue ovale alors qu'elle était ronde au départ?
Oui, ben, c'est aussi de l'ordre de l'énigme. On dira quand même ceux qui jouent avec un ballon à l'époque qu'avaient les pieds. Bon, il vaut mieux qu'elle soit ronde pour qu'elle roule bien, quoi. Tu vois, voilà. À l'époque, on n'avait pas de caoutchouc. À l'époque, on n'avait pas de vessie qu'on gonfle avec des pompes. À l'époque, on avait quoi? On avait que dalle. On avait peut-être des ballots. Ça remonte, c'est très très vieux, quand même, des balles de paille comme ça. Peut-être après, le plus dominant, ça sera la vessie de porc. La vessie de porc, c'est un organe, quoi, de fait, qui, un peu traité, devient un peu cuir, et que si tu mets ou de la paille dedans, ou du tissu, ou du fond, tu peux lui donner une forme qu'elle garde. Tu vois, les premières balles de foot, c'est des vessies de porc presque rondes, arrondies avec du chiffon ou de la paille à l'intérieur. Quand on commence à jouer avec les mains et avec les pieds, c'est plus tellement bien important qu'elle soit bien ronde.
Non, bah, ça... Voire au contraire, si elle est ronde, peut-être qu'elle reste pas dans les mains, alors qu'on va la tient mieux. Non,
je ne sais pas si c'est la motricité, tu vois. C'est l'idée qu'à un moment, si tu l'avais la main, tu te la prends, tu te la gardes, l'autre il vient te l'arracher. Bon, move, pas très important qu'elle soit bien. C'est important que ce soit un objet transitionnel, de fait. Tu vois qu'elle puisse aller de l'un à l'autre. Donc, elle va devenir ovale, non pas parce qu'on l'a trop serrée contre notre cœur. C'est une belle hypothèse. Moi, je l'aime bien. Mais je la retiens pas quand même totalement. C'est pas parce qu'on s'est assis dessus, parce qu'on était fatigué, non plus, je la retiens pas. C'est probablement parce que à un moment, la nôtre, c'était pas capital qu'elle soit ronde. Les footballeurs ont voulu prendre la balle ronde définitive, et nous, on en a pris une autre qui ne serait pas ronde, et pourquoi pas ovale. Ça, c'est la première histoire. Dans mon univers, du petit, de 3 ans, ou de 2 ans, il y en a, je sais pas, je me suis amusé avec mes balles dans ma rue. Je sais pas, le cadeau de Noël, je sais pas, l'orange, pourquoi pas, enfin, tu vois, il y en a. Mon premier jeu, il est là. Mon premier jeu, il est jouer avec une balle. Ma première adresse vient avec la balle. La balle, je la trappe volontiers, je la fais rouler volontiers, je m'en amuse volontiers. Dès qu'elle rebondit un peu, je me mets tout petit, hein, 3-4 ans, à jouer au mur et à me la faire envoyer. Un peu plus grand, 5-6 ans, je descends dans la rue où il passe très peu de voitures dans le quartier où je suis, moi, jouer avec la balle. La balle, c'est ma compagne. Mais vraiment, comme... Mais je ne sais pas l'amour que je lui porte d'où il vient, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle me permet un type de relation affectueuse et adroit. Je vois bien que j'en fais de jolies choses, de fait.
Et vous êtes mieux là, avec votre balle? Slash ballon.
Que nulle part ailleurs.
Et en particulier à l'école.
Ah, mais beaucoup mieux qu'à l'école. Et alors, je vais enfin voir l'école intéressante en sixième, parce que j'aurai des cours de balle. Tu vois, toute l'école primaire, j'ai zéro souvenir de. À la cour, peut-être un peu, tu vois, à la récré, mais très très peu. Et quand j'arrive en sixième, comme tout, il y a un cours d'éducation physique, et dans le cours de gym, tu vois, le fameux cours de gym, on fait des sports de balle. Je suis né doué au sport de balle. C'est une prétention absolue. Tu vois, le prof de gym qui me fait courir, sauter, lancer, comme tous les enfants du monde quand ils font de l'éducation physique, tu vois, à l'âge de 10 à 11 ans, très vite, il se perçoit que moi, je... Et petit, c'est difficile à dire ces mots, tu vois. Doué, ça veut dire avoir un don, en fait. Un don, c'est quelque chose que tu as, tu sais pas d'où ça vient. Tu vois, et c'est souvent pour d'aucuns divin, ce qui n'est pas mon cas. Tu as des aptitudes, tu sais pas. Sans doute, mais autour de moi, on aime les balles, mais mon père, il bouge pas plus que ça, tu vois. Mon frère aîné, il aime les balles quand il joue au rugby, qui rentre dans les mecs, tu vois.
Vous êtes plutôt joueur de rugby dans la famille.
Oui. Alors, on a la lignée directrice paternelle qui fait que, malgré tout, il voyait pas d'autre hypothèse que qu'on aille quand même au terrain de rugby pour s'y éduquer, quoi, tu vois, dans mon père.
Est-ce que vous vous souvenez que ça a été difficile pour vous de lâcher le ballon rond pour la balle ovale?
Tu veux que je te dise? Très honnêtement, petit, je joue avec les balles, je me régale avec toutes. Toutes, pour moi qu'elles soient grosses.
Il n'y a pas eu un tropisme familial.
Non, il n'y a pas une imposition. Oui. Alors, le bonheur, je ne sais pas d'où il vient. Mais j'aurais presque tendance à bénir. C'est-à-dire, tu vois, d'où il vient.
Oui, Et combien il y aurait eu.
Le bonheur, c'est que cette route-là, apparemment sur laquelle on m'a un peu guidé, c'est la bonne. La bonne pour moi. Cette route où on m'a un peu guidé. Tu vois, je vois des méfrangiens ou frangines, tu vois, qui ont été un peu amenés, pas avec la même réussite, entre guillemets, de goût, hein. Tu vois, moi, cette route, c'est la bonne, quoi, cette route. Et je n'ai que joie autour de ça. Mais moi, j'ai joie de la balle. J'ai joie du jeu avec la balle. J'ai joie de l'adresse avec la balle. Moi, la balle, je mets pas de suspicion au concept, mais la balle, je l'aime, moi. Non, putain, je l'aime. Et j'ai un peu le truc étrange. Que j'ai l'impression, ça, j'ai un peu de Michel Serres, me dit, si tu la manques jamais, c'est qu'elle t'aime. Tu vois, c'est quelque chose un peu... Si tu la manques jamais, moi je la manque pas, ou pas beaucoup, tu comprends ça, tu vois l'idée. Je suis adroit avec la balle, je suis maladroit dans mille trucs, moi, comment tu... mais je suis adroit avec les balles. Les grandes, les petites et les grosses, presque toutes. Alors, jusqu'à là, à 10 ans, 11 ans, je joue un peu au foot, parce que ou dans mon quartier, là, autour, ou même mon premier prof de gym, il y avait une petite équipe avec les sixièmes, quoi, tu vois. Mais quand même, quand on me dépose devant le stade de rugby, j'ai 11 ans, là, c'est ma route, elle est ovale, mais peu importe. Peu importe, je te jure, peu importe. J'aurais pu être, honnêtement, je crois, hein, sans toute modestie et toute prétention, hein, j'aurais pu être un aussi bon basketteur que j'ai été un rugbyman, ou un aussi bon footballeur, je pense.
Oui, mais vous avez eu dans les mains Daniel Herrero assez tôt, et ce grâce à votre frère André, un livre qui vous a, non seulement vous avez appris en regardant, mais un livre qui vous a aussi guidé vers le rugby. Le grand combat du 15 de France de Denis Lalanne, ça a beaucoup compté, ça.
Oui, mais je suis un peu grand déjà là, c'est-à-dire je sais lire d'abord. Et j'ai fini avec la peur du livre. Avec lui. D'ailleurs, jusqu'à lui, jusqu'à ce livre, je pense que je le lis en 64, donc j'ai 16 ans. Tu vois? J'ai 16 ans, je suis déjà grand quand même. Je lis pas, moi. Il n'y a pas un livre chez moi, pas un seul. Pas un seul. Ni un livre, ni un disque. Ça parle pas beaucoup non plus. Tu vois quand même que l'effervescence autour des mots, il y a ma maman qui me raconte un peu des trucs, mais moi. Tu vois, mais bon, on peut. Mon frère André est un très bon joueur de rugby, tu vois, il a 10 ans de plus que moi, il est international, et l'équipe de France fait une tournée. Et il y a un journaliste, écrivain quand même, je pense que c'est un écrivain qui a été journaliste, il s'appelle Denis Lalanne, il est décédé il n'y a pas si longtemps, et je l'aimais beaucoup d'amour aussi. Il accompagne l'équipe de France qui fait une tournée en Afrique du Sud dans les années 55, 60, 70, peut-être, je ne me rappelle pas trop, 68, peut-être. Tu vois, l'Afrique du Sud est un pays considérable pour tout, pour le rugby sans aucun doute, pour l'apartheid à l'évidence, pour le système social, pour la vie des gens, et voilà, il y a un monde considérable. Et ce monsieur écrit un livre sur l'aventure du 15 de France, quoi. Les coquelets en dehors du monde, puis il les trouve beaux, il les trouve bons. Il raconte que des choses qui ne sont pas existées, mais comme c'était le seul à les voir, il a un imaginaire florissant, il voit des jolis matchs qui sont des matchs de bourrème, il voit des beaux joueurs qui sont des bourricots, mais il a quand même comme toute une fantasmatique, comme ça, sur le rugbyman vaillant, sur le rugbyman de France à l'extérieur, sur le coq qui est menacé par la rudesse du monde sud-africaine, quoi, tu vois, arrive à être flamboyant, sur le rugbyman qui est d'une telle générosité, c'est sacrificiel, tu vois, ils vont jouer en Afrique du Sud, ils gagnent pour la première fois de l'histoire, ils reviennent tous clopé. Tu vois, mais ce genre de truc qui fait que ça ressemble à une épopée, quoi, tu vois. Oh, putain, que ça me plaît. Ah, oh, ça me plaît. Et pour la première fois de ma vie, je vais au bout du livre. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie, je lis un livre.
Et à ce moment-là, vous êtes déjà au rugby club toulonnais?
Oui, ouais. Oui, je suis avec les cadets, là, peut-être les minimes, tu vois, 15 ans, je pense. Mais ce livre, il est bouleversant, ouais. D'abord, parce que j'en ai fini avec la peur du livre, que l'école peut faire... Elle ne me fait pas le cadeau, quoi. Elle me fait pas le cadeau, l'école, elle m'offre pas le livre comme, elle m'en fera d'autres, pas beaucoup, hein. Plus tard, tu vois. Mais là, dans cette première partie, là, le collège, on dira, quoi. Non, le livre, il est pas pour moi, le livre, j'en ai pas, le livre, je sais pas que c'est beau, le livre, si j'y vais dedans, c'est pour apprendre des choses, tu vois. J'ai le sens de la contrainte, plus le sens du plaisir. J'ai déjà l'impression que j'ai 15-16 ans que la poésie, ça me plaît, mais bien, les salles de l'école, ça me tarabiscote, mais pas bien. J'aime pas, j'ai pas la salive, j'ai pas la saveur. Et j'ai pas l'idée non plus d'aller voir, quoi. Ce livre-là, il m'a fait du bien. Et à partir de là, quand même, ouais, ça lire. Et élément changeant pour moi aussi, tu vois, je suis capitaine des Benjamins, j'ai 11 ans. Je suis capitaine des Minimes, j'ai 13 ans. Je suis capitaine des Cadets, j'ai 15 ans. Tu vois ça?
Donc, et capitaine de l'équipe de France Junior à 18.
Voilà, 17, tu vois, enfin, moi, tu vois ça? Donc, c'est même pas l'idée du capitanat, tu vois, c'est l'idée que tu, à un moment, t'es posté, ça ne te parle le monde dans lequel tu es, peut-être un peu par ta nature, t'es posté avec une forme de leadership. Moi, il y en a que là que j'étais capitaine, moi, tu vois. T'as un leadership où il s'impulse l'idée que tu es peut-être devant, t'es peut-être cap, tu, ou sur la compréhension des choses, sur la façon dont tu le portes, sur la façon dont tu le parles. Et ces fonctions-là, dans la pratique ludique du club, plus un peu, déjà des affirmations de compétences, fait que je libère les mots, moi. C'est là que je libère les mots. C'est là que ça me plaît de dire pourquoi tu joues bien. C'est là que ça me plaît de dire pourquoi il faut qu'on joue bien ensemble. Tu vois, c'est là que ça me plaît de dire viens, on s'applique. Tu vois, c'est là que ça me plaît de dire tu vois que la technique ça peut être beau si ça enrichit le monde, si ça enrichit le jeu. Tu vois, et la parole, un livre me percute parce que on me raconte des belles choses sur quelque chose que j'aime de fond sans savoir pourquoi.
Donc votre école, à vous, école de la vie, école tout court, ça a été le rugby club toulonnais, essentiellement.
Ah oui, 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 oui. Ouais.
Bah, alors c'était quoi cette spécificité du rugby club toulonnais? Parce que dans L'Esprit du jeu, qui est un livre que vous avez écrit, Daniel Herrero, vous faites le tour de France, vous faites même le tour du monde des clubs en montrant justement cette mosaïque française et cette mosaïque mondiale et en montrant qu'on ne joue pas à Toulouse comme à Grenoble, qu'on ne joue pas à Agen comme à Brive, à Béziers comme à Toulon, on va peut-être y revenir parce qu'il y a un match mythique, enfin vous n'avez pas oublié, du 1971. Mais donc Toulon, ça représente quoi dans la spécificité du jeu? Qu'est-ce que c'est la culture du RCT? Ouais.
Alors bon, Toulon c'est une cité, tu vois, qui est au bord de mer, dans une région qui elle n'a pas de grande culture rugbystique. Il y a que Toulon. Surtout l'arc méditerranéen, ça s'arrête à Béziers de fait. L'arc méditerranéen, il est pas encore au bord de mer, Béziers. Mais... sinon, il y en a pas. Et on arrive dans cette terre de Provence, il y a Toulon. Et alors, quand même, pour moi, il est temple. J'ai pas la pensée religieuse, moi, je suis pas structuré à ça, quoi, tu vois. Mais il est un lieu qui porte une forme de sacré. Alors, il y a quelque chose de, oh, c'est la grande maison. Elle est un peu élite. Il y a d'autres clubs dans le périmètre, mais quand même, c'est la grande maison. Si on me dit, on m'y dépose et que m'y accueille, c'est que on me reconnaît apte à rentrer dans le temple. Et ça génère une satisfaction. Si on me dit, il est rubis, tu vois, et si on me le dit petit, ça, dans cette maison-là, voilà. Donc il y a quelque chose de haut. Alors en même temps, à Toulon, il y a un truc qui se dégage très très vite, c'est que tu ne peux pas avoir le passeport qui t'ouvre le sacré. Tu vois, la route des grands, quoi. Tu peux pas l'avoir si t'es pas vaillant. Le reste, on te l'accorde. Le reste, on te le tolère. L'approximation technique, la gestuelle médiocre, tu vois. Une socialisation, parfois petitement narcisse, on peut encore aller jusque-là. Tu vois, ça va nous fatiguer quand même. Mais ma foi, quelque part, tu vois, les petites boursouflures d'ego se tolèrent, notamment dans
on
les...
on y passe.
Oh, ouais. Mais pas vaillant. Alors, et ça, ça imbibe l'atmosphère.
Vous dites flambeur, grande gueule, glouton, d'une susceptibilité extrême, c'est un club de caractère.
Oui, alors ça c'est gentil. Glouton, c'est-à-dire gourmand et goulu de rudesse. Tu vois, donc là il y a un fond, si tu l'analyses, il y a un fond... Je fais très attention maintenant quand même à tous ces mots-là, mais un fond viriliste, respectable quoi, tu vois. Des amitiés masculines, mais respectable, je t'assure. Il porte pas un machisme stupide. Mais il porte une identité des amitiés masculines qui font de cet univers-là sacré. Sacré. D'aucuns le lisent comme un club macho, tu vois, stupide. D'autres le lisent comme un club de guerriers volontaires. D'autres comme un club de corsaires du bord de mer. D'autres comme de guerriers de l'arsenal. D'autres comme de grandes gueules stupides de la vieille ville, tu vois, où t'es toujours en train d'hurler parce qu'on t'a pris 100 balles. Je sais pas, moi,
c'est un peu tout ça à la fois, au final.
Et de fait, au final, non, il se dégage que c'est assez vite extraverti dans le sens de l'engagement personnel, de la combativité, je dirais. C'est un peu plus joli, je trouve, pour moi. Tu vois? Voilà. Et j'y trouve une forme de noblesse, moi, ça. Je trouve qu'il est noble d'être combatif et partageur. Qui plus est, j'y trouve quelques aptitudes. Je suis un vaillant respectable, tu vois, et je suis en même temps un vrai rugbyman, quoi.
Ce qui fait, Daniel Herrero, que vous vous engagez à fond dans le club, que vous êtes entraîné par votre grand frère, André. On est en 1968, vous avez 20 ans donc, et là vous jouez tous les matchs jusqu'à la finale, qui doit être reportée parce que il y a eu mai, hein, entre-temps, et votre frère ne vous sélectionne pas pour la finale. Alors là, vous tombez de haut.
Alors ça, ta chute là, vous tombez de haut, je ne la formule pas, mais quand même, je suis interrogatif. Je ne chute pas moi. Tu vois, mais je joue au rugby depuis que je suis petit. J'ai passé mon bac, j'ai fait mes études. 68, la turbulence. J'ose occuper la rue de façon respectable, me semble-t-il. La France entière se paralyse. Mais bon, on revient pas sur cette turbulence-là. Et j'ai joué la demi-finale. J'ai joué tous les matchs jusqu'à la demi-finale. Quand je suis dans mon équipe, c'est mes amis, c'est mes frères, c'est ma roue, c'est mon cœur, mon poumon, mon histoire, ma joie. Tu vois, ma glorification, ma vie, quoi. Voilà. Et je participe aux à l'aventure 68. On joue pas d'un mois, puis un mois et demi, puis deux mois. La finale est toujours reportée. Mais arrive à terme, la conclusion ne me ravit pas, mais enfin bon, voilà. Et puis à la sortie, quand même, la finale de rugby va se jouer, elle se joue 2 mois après. Et là, moi, je me suis pas beaucoup entraîné, honnêtement. J'étais un peu moins présent. Dans mon cœur, changeait un peu les regards. J'ai trouvé celui de ma copine de la rue. Je l'ai trouvé sans doute un peu plus séduisant que le bourricot de Pili avec qui je jouais, mais qui était quand même mon frère de route depuis toujours, tu vois. Bon, grosso modo, j'ai un peu désaxé. Et de fait, André, qui est l'entraîneur joueur, mon frère aîné, à ce moment-là, quand il va se faire jouer la finale, match télévisé, tu vois, la finale du championnat, en 68, c'est aussi important que maintenant, de fait, tu vois, dans le rayonnement de la chose. Je suis pas dans l'équipe. Oh. Mais en même temps, j'ai conscience que, oh, pas tricher, quoi, tu vois, il me veut pas du mal. Il m'abîme l'instant quand même, quoi, tu vois, j'ai une espèce de castration quand même sur une joie hypothétique. Imagine qu'on soit champion de France, on n'a jamais été à Toulon, on l'avait pas été depuis 1000 ans, quoi. Oh. Ça me met un trouble, j'ai pas d'acidité, aucune. Aucune. Ou tout au moins, je la formule pas. Tu vois, je peux faire une petite crise d'eczéma, ou, tu vois, où je peux me réveiller en pleine nuit. Non, j'ai pas la grande douleur. Par contre, le lendemain de la finale, je prends un billet. J'ai gagné un peu des sous en demi-finale, en quart de finale. J'ai gagné 100 balles, comme ça, tu vois, 200 balles. J'ai un tout petit pécule, mais pas gros, hein. Je regarde à la fois une carte, j'ai un ami qui me parle un peu du monde, le Che vient de mourir en Bolivie. J'y vais. 2 jours après la finale, j'y vais. Je pars. Et il est où, le Tché? Bolivie. Putain, c'est où sur la carte, la Bolivie, hein? Tu vois, je sais même pas. Je te jure, je sais même pas. Tu vois, l'Amérique latine, je regarde un peu. La finale se joue le 19 juin, le jour de mon anniversaire. 3 jours après, j'ai le billet. J'apprends qu'il y a un bateau qui part de Vigo en Espagne, mais qui traverse par le Sénégal. Il met 6 mois pour y aller, enfin, il y a un cargo. Oh, putain. J'apprends finalement, il y a un bateau italien qui transporte les derniers immigrés italiens. Il n'y en a plus. Il y a un bateau qui continue à faire Europe, Amérique du Sud, comme ça. Avec les quelques ronds que j'ai gagnés, je trouve mon meilleur ami qui, lui, n'a pas un franc non plus. Hein. Et pourquoi on partirait pas? Pourquoi on n'irait pas voir là où le tien est mort? Pourquoi on n'irait pas voir là où il y a des Incas qui paraissent que c'est des mecs bien, tu vois? Aussi con que ça, hein. Aussi con que ça, tu vois. Pourquoi on n'irait pas voir ailleurs comme ils vivent? Un truc un peu de ce genre, quoi, tu vois. Une douleur un peu affective et profonde, une petite rupture avec un milieu. Peut-être pour la première fois de ma vie, tu vois, j'ai une sensation confuse que la passion est un cimetière. Tu vois, que la passion, qui est quand même la beauté du monde, mais j'ai la conscience que ma passion est belle, moi. Honnêtement, j'ai pas de culpabilisation, tu vois, qui plus est. Mais dans le fond de moi, je peux ressentir qu'elle m'enferme du monde. Et l'idée d'une petite colère comme ça, respectable, honnête, humaine, tu vois, qui plus est un peu fraternel, malgré tout, quand même, ce qui n'est pas anodine complètement, qu'elle me propulse comme ça. Il faut aller voir le monde, garçon, pour essayer de le comprendre. Voyage initiatique, je pars pour 6 mois, je vais voir le tien.
Et donc, mais ça a quand même été une pause, une suspension, parce que vous êtes revenu, et des finales, vous en avez joué, à commencer par celle de 1971. Grand moment, hein, parce que vous êtes finaliste du championnat de France, Toulon contre Béziers, et vous n'avez pas oublié le match.
Oui. Quelle que soit la pratique qui est la tienne, et quel que soit le sport dans lequel tu t'actives, faire une finale, tu vois, c'est la phase ultime, c'est le bout de la route, c'est quand même rendez-vous avec une gloire hypothétique. Parce qu'une finale, malgré tout, en sport, il y en a deux au bout, quoi, tu vois. Puis après, il y en a plus qu'un, le vainqueur, quoi. Donc c'est une trame affective forte, une conclusion considérable, avec quoi qu'il arrive, quel que soit le déroulement, elle te laissera une trace forte. Mais celle-là, donc tu sais, alors effectivement, 68, je joue pas la finale, Toulon perd, pas de grand chose, mais rien. Et puis moi, je pars des mois, et je reviens plus, j'ai plus envie de revenir. Hein. Et puis quand je reviens, j'ai vu les Incas. J'ai pas grand chose à dire sur eux, tu vois. Ils étaient discrets avec moi. Mais enfin, quand même, je les ai vus à Cusco, à Machu Picchu, au fin fond de l'altiplano bolivien. Je le vois avec passion. J'y rentre, je vais vivre avec ces gens. Je vois un peu les turbulences encore sociales qui animent un peu l'Amérique latine, quoi, tu vois. Je suis pas endormi sur le monde, quoi. Et quand je reviens, 6 mois après, j'ai plus envie de jouer. J'ai pas, tu vois, ça m'a passé un peu. Puis finalement, malgré tout, quoi, comme diraient mes amis espagnols, ce petit ver qui ronge le fond de ton cœur, mais pas pour le ronger, pour l'embellir, quoi, tu vois. Il se réveille. Bon, ouais. Donc je me remets à jouer, voilà. Et 3 ans après, 71, Toulon revient en finale. Là, je suis titulaire à part entière du domaine de l'indiscutable. Mon frère aussi, d'ailleurs, moins indiscutable que moi. Mais enfin, il joue quand même parce qu'il était entraîneur. À la sortie, tu vois, on va jouer la finale, Toulon-Béziers. Finale considérable, 2 grandes équipes. Les 2 équipes à la fois les plus rudes et les 2 équipes les moins subtiles stratégiquement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé que le rugby, ça pouvait être un jeu de destruction et un jeu de construction. Tu vois, on a plutôt pensé les deux que c'était d'abord, prioritairement, un jeu de destruction. Tu vois, les 2 équipes vont s'affronter en pensant qu'au bout d'un moment, il y en a quand même une qui mettra le genou à terre. Tu vois, c'était grosso modo les stratégies de l'époque. De ce match-là, match magnifique, de combativité, pas de passe. Moi, je joue un poste, on touche du ballon, j'en touche deux dans le match ou trois, donc la misère, pas grand-chose. Mais par contre, il y a un événement. Il y a un peu des bagarres, mais pas beaucoup, mais un peu quand même, des tensions, tu vois. Quand tu perçois que dans le tissu relationnel du stade, il y a du véhément qui vire un peu à de l'agressif, qui vire un peu à du méchant. Tu le vois là, cette zone-là, tu vois, ils vont se filer sur la tronche bientôt, là, tu vois. Et là, dans ce match-là, mon frère André, capitaine de Toulon, entraîneur de Toulon, icône culturelle de la cité, tu vois, du rugby français en même temps, personnage magnifique, de tous les talents en même temps, enfin, des talents athlétiques considérables, tu vois, qui pensent le jeu, enfin bon. Et lui, probablement, à la 30e minute, encore dans un match très tendu, les deux équipes sont à égalité, personne ne prend le dessus. Et lui, il est victime. C'est-à-dire, il est abattu d'un coup qui le met à genoux. Alors lui, c'est un bœuf, mon frère, tu vois, c'est, il y a un coup qui l'invalide. Il est blessé, gravement blessé, il sort sur la civière. Moi, je suis dans tous mes états, le stade est en émoi. Herrero, l'homme sacré de Toulon, tu vois, la fratrie en plus, pas loin derrière, tout le monde qui pleure dans mon équipe, moi, comme un fou, enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui sont d'un autre temps, de fait. Qui sont le temps où t'es pas pro, quoi. Le temps où c'est pas ton métier, quoi, tu vois. Le temps où ton frère, c'est ton frère, quoi, tu vois. Le temps où ton club, c'est ton club, quoi, tu vois. Le temps où ta mère qui pleure dans la tribune, c'est aussi ta mère qui pleure, tu vois, ce temps-là, là, comme, bon, voilà. Et donc. Donc, il y a quelque chose d'assez douloureux de autour de ça, quoi. À la fois, une violence délibérée, sans doute, et toute la problématique qui va aller derrière. Il va falloir quand même qu'on continue le match. Mon frère est invalide. On en serait prêts, quelques-uns dans l'équipe, à jouer la dynamique de la vengeance. Il y a une blessure, tant pis. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on la venge. Tu vois, ça met du trouble à ce match. Ça met à ce match, en même temps, une auréole très élevée. On a touché un joueur intouchable, on l'a blessé de façon délibérée sans doute, gravement blessé, le match a été arrêté, il y a du malsain dessus, il y a de la vengeance, il y a une icône tombée, il y a des choses un peu équivoques qui flottent autour du match et qui vont faire que le match, il va rester quand même un peu légendaire, mais pas dans la beauté du monde.
Oui, c'est pas dans la beauté. Légende noire, là. C'est la légende dorée.
Et
là.
Moi, celle-là, elle me va pas trop bien, moi, je le mets dans mon coin, ça va. Voilà, j'ai gardé quand même un fond d'écume amer, hein. Tu vois, qui fait qu'avec cet adversaire, je m'étais dit un jour, sans doute, je le retrouverai, ce qui est quand même pas beau comme réflexion, quoi, tu vois. Moi, je l'ai jamais franchement retrouvé, je l'ai jamais haï. Et si je te racontais la dernière histoire, l'adversaire direct, qui joue en face de moi, dans le match, là, quand mon frère sort, qu'il y a une turbulence considérable, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, il peut y avoir une bagarre qui éclate comme une vengeance, tant pis, tu vois, c'est possible, et notamment avec des équipes comme la mienne, là, Toulon à l'époque, ou Béziers même. Donc, il y a une angoisse considérable. Le mec qui joue en face de moi, qui pense que je vais me battre, et s'il est en face de moi, ça va être mon premier adversaire, quoi. Ce mec-là, il est avec moi, militaire, au bataillon de Joinville, il dort dans ma chambre. D'ailleurs, c'est mon frère de route, ça fait 6 mois qu'on était militaire ensemble, il est dans ma chambre, au bataillon de Joinville. Il sait que dans 3 jours après la finale, on remonte tous les deux finir notre service militaire au bataillon de Joinville. Il se demande, Daniel, on va se battre, mais comme des chiens, là. Hein. On va se battre comme des violents. De fait, il n'y a pas de bagarre, pas trop, c'est un peu rude, mais... Et 3 jours après, je remonte au bataillon de Joinville. Toulon a perdu de pas grand-chose. L'affaire d'André Herrero blessé, tu vois, reste très lourde. À Toulon, c'est mal digéré. Vous n'avez pas vengé, vous n'êtes pas battu, vous n'avez pas remis un peu l'orgueil toulonnais culturel et historique quand même à plein. Vous avez accepté que sur la violence, l'adversaire nous déborde, nous domine et soit vainqueur, quoi. Et mon par contre, mon copain, qui était un joueur admirable, qui a eu 50 sélections en équipe de France et qui jouait à Béziers et qui était dans ma chambre, il me dit quand même, Daniel, franchement, dans les plus grandes peurs de ma vie, j'ai eu l'instant qui a précédé la mêlée où on était face à face, où à un moment, il me dit avoir pensé que deux frères peuvent mourir, quoi, tu vois.
Et après cette défaite de Toulon, donc 1971, vous signez au Racing Club de Nice. Vous y restez jusqu'en 1976 et ce n'est qu'en 1983 que vous revenez au RCT, au Racing Club de Toulon, comme entraîneur cette fois. Et c'est ce qu'on verra dans le 4e temps de notre série.
Je me languis.
À demain. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Félicie Faugère. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.